Allez, c'est parti. Craps façade clash avec quelques instants de retard, quelques minutes même. On était dans les studios, on était en train de... Eh bien, nos amis, les colères, étaient en train de partir, là, de boucler leurs affaires. On avait des trucs à régler. Voilà, on a un peu pris de retard sur le programme, qui, ma foi, est un programme un peu chargé. Je ne vais donc pas m'étendre sur cette présentation. On va rester dans le domaine du rail, puisque la semaine dernière, on avait vu quelques évocations musicales des chemins de fer et des trains, avec d'autres trains. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser un peu plus à cette thématique, on va rentrer un peu plus à fond et on va aller voir d'un côté plus psychologique. Alors bien sûr, si par la forme au moins les locomotives ont quelque chose de presque freudien et qui dans une certaine analyse, leur silhouette nous évoquerait quelque chose de tout à fait franc. Et bien, elles sont effectivement un véritable outil, objet de fantasme. Et c'est sans doute d'abord par leur puissance, la puissance qu'elles révèlent, qu'elles vont susciter au moins un imaginaire extravagant. Et qui nous ramène eh bien, souvent au sexe. C'est pourquoi cette émission ce soir s'intitulera « Sexe et locomotive ». Alors la vénération de la puissance, eh bien, on la trouve tout de suite au début du XXe siècle chez les futuristes. Et c'est leur sonorité, à celle des Marinetti, des Russolo, des Giacomo Balla, qui vont nous servir d'illustration, presque, ou en tout cas de support à la lecture d'un texte de Raymond Lévy, le célèbre designer français parti aux États-Unis et qui, on pourrait presque le dire, est l'inventeur et le père de la forme de la société de consommation. Eh bien, le jeune Raymond Lévy, à l'âge de 15 ans, nous raconte dans un livre qu'il a fait paraître dans les années 50, une époque, un épisode de sa vie. Dans le compartiment d'un train, vous allez voir, c'est tout à fait croustillant et il se trouve que quelques années plus tard, le fameux Bertrand Blier nous resserre une scène dans son célèbre film « Les Valseuses » où les deux compères de Ware et Depardieu s'entreprennent de quelque peu chahuter l'innocente Brigitte Fossé. Et c'est ma foi presque la même scène que celle de Raymond Lévy. Je vais vous laisser entendre ça, découvrir. Bien sûr, les rôles ont quelque peu été inversés. On n'est pas bien là ?
À 15 ans, je quittais le collège Chaptal pour entrer à l'école de Lannoy, école préparatoire pour les concours de l'école centrale. Nous habitions la porte Dauphine, assez loin de l'école de Lannoy. Le moyen de transport le plus rapide pour me rendre en classe était, fort heureusement, celui qui me plaisait le plus. C'était le train, un vrai train à vapeur, le train de ceinture, dans lequel j'avais la chance de monter deux fois par jour. Les réveils à l'aube, dans l'obscurité hivernale, avaient perdu leur caractère atroce. J'avalais mon café au lait et mes brioches, et je courais, dans un crachin glacé, jusqu'à la station Porte Dauphine. Je dégringolais les escaliers glissants et j'attendais sur le quai l'arrivée du train et mon émotion du matin. C'était merveilleux de sonder le brouillard du regard à la rencontre du halo doré qui illuminait, en se rapprochant, à la fois mon cœur et le quai luisant de la gare. Le train arrivait à toute vapeur et ralentissait dans la pluie d'étincelles des freins, les roues grinçaient sur le sable et il s'arrêtait, joyeusement éclairé par l'aube naissante, dans une exquise odeur de fumée, de vapeur et de sable roussi. Je grimpais dans un petit compartiment qui sentait le reps moisi et le tapis mouillé. Comme je voyageais en première, le compartiment était presque toujours à moitié vide et je m'installais sur la banquette beige, couverte de taches. Je sortais mes livres et je repassais mes leçons. Parfois cela m'était facile, d'autres fois, je n'arrivais pas à me concentrer. Je lisais et relisais, alors distraitement, sans même la voir, la même équation. Racine de A moins B égale X. Racine de A moins B égale X. Racine de A moins B égale X. Racine de A moins B égale X.
Raentibum! Saetantibum! Alma! Gran palla di fuoco si spande nello.
J'étais vaguement conscient d'une faible interférence. Ce n'était pas désagréable, c'était une sorte de douce pulsation rythmique. Ce n'était pas le rythme des roues sur les joints du rail. Non, c'était plus humain. Au moment où se produisait ce phénomène, l'odeur de soufre et de pétrole du wagon prenait d'une autre qualité et devenait presque un parfum. Décidément, cette cadence rythmée ne venait pas des roues. Est-ce que par hasard elle était en moi ? J'étais intrigué, mais ma nature analytique me poussa à observer. Cependant, je lisais toujours sans voir racine de A moins B égale X, racine de A moins B égale X, racine de A moins B égale X, racine de A moins B égale X. Je m'aperçus bientôt que ce phénomène d'interférence se produisait invariablement quand un autre voyageur se trouvait dans mon compartiment, mais jamais lorsque ce voyageur était un homme. Par contre, la sensation se faisait très aiguë si le voyageur était à la fois du sexe féminin et d'aspect agréable. Cela était étrange. Étrange, mais pas déplaisant. Un autre élément de trouble se fit bientôt jour en moi. Pendant que j'attendais sur le quai de la station, je commençais à m'intéresser beaucoup moins à l'apparition des phares du train, et beaucoup plus au choix du compartiment où j'allais monter. Un jour même, à force d'hésiter, je faillis manquer le train. Ce fut une révélation. Je tenais enfin la clé de l'énigme. Le compartiment où j'aimais monter de préférence était celui qui contenait une jolie fille. Cependant, ma technique du dernier moment avait des inconvénients. Parfois, ayant trop hésité, j'atterrissais au beau milieu d'un compartiment empesté de fumée et bondé d'hommes trempés et sentant le drap mouillé. Mais cette histoire de belle voyageuse m'intriguait. Était-il possible qu'il existât, dans ma vie, d'autres sources de joie que les locomotives ? Le problème devait se résoudre de lui-même par un soir d'hiver. J'étais monté distraitement dans le compartiment le plus proche pour rentrer chez moi. Oh, surprise! Deux voyageurs y étaient installés. Une jeune et jolie maman d'environ 30 ans et son petit garçon âgé de 6 ans. Plusieurs paquets s'entassaient dans le filet du compartiment. Elle venait sans doute de faire des achats dans les grands magasins. Les glaces étaient couvertes de givre, les lumières du compartiment étaient dorées, l'air chaud et parfumé. L'enfant dormait profondément, étendu sur la banquette, la tête reposant sur le vison plié de la voyageuse. Un ballon rouge portant l'inscription « Louvre » était attaché au poignet de l'enfant et se balançait doucement. La maman était ravissante, avec son chapeau cloche et la voilette tendue sur ses lèvres sensuelles. Vêtue avec goût, blonde et potelée, elle donnait l'impression d'une jeune caille bien nourrie. Je m'émerveille souvent de la mémoire photographique dont j'ai été doué par la nature et qui me permet de me souvenir avec précision de certains détails visuels de ma prime jeunesse. Je disais donc que la dame tricotait, que l'enfant dormait et que, moi, j'étudiais mes leçons. La vanité totale de mes efforts m'apparut bientôt avec évidence car je ne pouvais pas détacher mes yeux de la rayonnante créature. Elle remarqua ma nervosité, et une lueur d'amusement passa dans ses yeux bleus. Je la regardai, et elle me sourit. Mon visage était sans doute très congestionné, car elle cessa de tricoter, sourit de nouveau, et me dit d'une voix douce. « Voyons, qu'est-ce qui ne va pas, Raymond ?» Je rougis jusqu'aux oreilles, et réussis à articuler. « Mais madame, comment savez-vous mon nom ?»« Il est écrit sur la couverture de votre livre ?» répondit-elle. Je rougis encore davantage et me réfugiais derrière ma trigonométrie. J'étais ensorcelé. Je tremblais d'une émotion inconnue et j'observais la jolie maman du coin de l'œil. Elle cessa de sourire et parut légèrement perplexe. Puis, cessant de tricoter, elle regarda son petit garçon endormi, releva les yeux sur moi, hésita un moment et posa son ouvrage sur la banquette. Elle souleva sa voilette noire, juste assez pour dégager le bout de son ravissant petit nez. Elle ouvrit son sac, en sortit un miroir, commença à essuyer son rouge à lèvres d'un geste lent et sensuel. Par-dessus son miroir, elle me jetait des regards adorables. Ses yeux étaient langoureux et provocants. Je sentais que quelque désastre inéluctable se préparait et je me faisais tout petit derrière mon livre. C'était inutile. Elle se leva délibérément, tira son corsage sur sa poitrine arrogante, franchit les trois passages qui nous séparaient et vint s'asseoir à côté de moi. M'entourant le cou de son bras, elle me prit le menton et se mit en devoir de faire fondre ma bouche sous un baiser très long et très doux, qui nous laissa tous deux pantelants et hors d'haleine. Un ingénieur pourrait fort bien décrire ce baiser comme un baiser à caractéristique hélicoïdale avec accélération progressive en profondeur. Je dirais, en termes moins techniques, mais également précis, que ce baiser évoqua pour moi le parfum des violettes de Parme en avril. Le train ralentit et s'arrêta à une station. Dans mon émoi, je réussis à jeter un coup d'œil sur le quai et reconnus la porte Dauphine. Je sortis, chancelant, traînant mon pardessus et mes livres sous mon bras, et restai planté sur le quai, pétrifié, ivre, tremblant. Il essuya un segment de vitre et me regarda. Elle était ravissante et semblait tout attendrie. Derrière elle, le ballon rouge se balançait au plafond. Le train repartit lentement. Elle m'envoya un dernier baiser et disparut dans la nuit. Je restai là, pensif et ravi. Je ne la revis jamais. Je rentrais lentement à la maison. J'étais songeur. Se pouvait-il qu'il existât des joies aussi surhumaines ? Il était indispensable de me renseigner. Mais alors, que devenaient mes anciens critères du bonheur ? La Mercedes rouge, les locomotives coupe-vent ? Comme tout cela me paraissait terne et lointain. Je me sentis coupable car je savais que j'allais bientôt trahir mes chères locomotives. Ce soir-là, mes parents s'étonnèrent de l'étrangeté de mon attitude et commencèrent à s'inquiéter de ma santé. On me trouva maigre et suggéra une visite chez le docteur de la famille. Pour éviter que cette discussion embarrassante ne se prolongeât, je trouvais plus simple d'acquiescer. Mais je savais bien que je n'étais pas malade. Certes, j'étais défaillant, mais seulement du désir de poursuivre mes recherches documentaires.
Partez pas! On veut juste que le Jésus désaltère. Tenez. Allez, prenez ça et donnez à boire au petit.
Non, vous me donnez ça, j'en veux pas, moi.
Je veux pas. t'es pas grand histoire. Hein? Tu sais qu'ils sont vachement mordants, tes nichons.
Je vais rejoindre mon mari. Il fait son service militaire. À Angelras.
Ah ouais? Plus intime comme ça. On n'est pas bien là. Ah.
Qu'est-ce que vous voulez?
Rien du tout. Je peux plus contempler mon pognon maintenant. Il a une perme.
Oui.
Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu.
2 mois.
Là, 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 là. Là, ça va être ta fête. Vous irez où?
Je sais pas. À l'hôtel.
Tiens. C'est pour toi. Tu vois, moi, ce que je voudrais, c'est que cette perme, tu la passes dans le plus grand hôtel de la ville. Hein? Dans la chambre la plus chère, avec une salle de bain, pour décrasser ton mec, qui va certainement puer. Que tu t'envoies en l'air sur un lit très spacieux, qu'on vous montre le champagne sur un plateau d'argent, que vous le buviez au pieu. Ça te dirait, ça?
Ben oui.
Ben oui. Seulement ton fric, il s'agirait de le gagner.
Comment?
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu donnes la tétée à mon pote. C'est un grand amateur de lait, et en plus, il est né de mère inconnue. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Alors, vieux, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ouais.
Ben alors, vas-y, à toi de jouer. Qu'est-ce que t'as, c'est pas bon?
Je bande pas.
Pan arrive à prendre le griffeton.
Quand il y a le droit de m'en chauffer, sa minette.
Et moi alors? Pourquoi je bande pas, moi?
T'as des potes dans la région?
Ah non.
Alors qu'est-ce qu'on vient foutre?
Ah merde, on débarque. Laisse-moi le temps de me retourner. C'est beau être pas trop con, c'est quand même pas un ordinateur. Ça fait pas de ville, je te dis.
Voie 4, fin numéro 1411, à destination de Bridol. Attention au départ, vous fermez les portières s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce qui te prend, t'es malade?
Si je te dis morte saison, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Hein? Question à 1000 francs.
Maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien. Tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va. Comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors.
Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Tu te sens pas en joie?
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Cette douce nostalgie, on se sent parfaitement en joie ce soir. Alors je suis très très en retard, j'en suis vraiment désolé. Donc très vite, le texte de Raymond Lévy, il est tiré de son livre La laideur se vend mal. Et puis bien entendu, l'extrait cinématographique, eh bien, c'était Les Valseuses, le film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, avec Patrick Dewaer, avec Miu Miu, et puis on l'a entendu, Brigitte Fossé, dans le rôle de la pauvre maman. Je vous laisse tout de suite avec Claude et sa nouvelle rediffusion de ces histoires de Franche-Comté qui a malheureusement déjà commencé, mais il y a juste quelques minutes. Allez, à la semaine prochaine.
C'est la fin de la vie, allais-je dire, dans une lapalissade formidable, mais c'est aussi des rites.